Et cette semaine, dans ces mêmes conversations, on revient sur les négociations en cours, que ce soit au Moyen-Orient ou dans la guerre lancée par la Russie sur l'Ukraine. Daniel Haber, comme chaque semaine ou presque, est au micro de Blaise van der Linden pour nous donner son point de vue sur ces deux actualités géopolitiques de taille.
Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Blaise et bonjour très chers amis.
Merci d'être avec nous, comme tous les lundis matins, pour les conversations autour de la géopolitique mondiale. Alors, Daniel, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Nous sommes dans une ère de pré-négociation depuis une semaine, deux semaines. Constatons-nous, alors, sur le front russo-ukrainien, et est-ce qu'on peut lier cette situation à la situation au Moyen-Orient et en plus de cela, 2025 sera-t-elle l'année des négociations?
Ah oui, clairement, 2025, c'est l'année des négociations parce que Trump a été élu et on sent que c'est un homme pressé et il est pressé de négocier. Pour lui, si on veut rendre l'Amérique sa grandeur, il faut qu'elle résolve les problèmes où elle est engluée, qui est le front européen et le front moyen-oriental, et pour se concentrer sur le front principal qui reste dans l'esprit américain, la Chine. Donc, alors, il est tellement pressé que ça a déjà commencé. C'est-à-dire que non seulement il a déjà constitué son gouvernement, mais on sent déjà que ses propres émissaires, à côté de ceux de Biden, avec qui il coordonne très très bien d'ailleurs, sont déjà en train de faire ces prénégociations dont vous parliez. Donc, on est certain que ça va être une année de négociation. Mais le paradoxe, vous l'évoquez très bien, c'est la recrudescence des conflits militaires. C'est-à-dire qu'on voit sur le russo-ukrainien en particulier une véritable escalade. Ça va très loin puisqu'il y a eu le lancement par la Chine, par la Russie d'un missile qui pourrait porter une tête nucléaire. Donc la menace nucléaire, elle est à la fois implicite et elle est même explicite parce que Poutine a menacé à nouveau, comme il l'avait fait il y a 2 ans, de l'emploi du nucléaire. Donc on est dans une très forte escalade en Russie et en Ukraine, mais c'est vrai aussi au Moyen-Orient, où on voit que aussi bien, alors à part l'Iran qui a dit moi j'attends. Donc je fais plus de menace d'attaquer Israël, tout ça. Je la retire. Ça c'est quand même assez spectaculaire. On constate que sur tous les boucliers que l'Iran a disposé tout autour de lui, une recrudescence. Le Hezbollah ne cesse d'envoyer des missiles. Les quelques roquettes qui restent à Gaza, elles continuent à être de temps en temps envoyées. Et de toute façon, on a des combats assez durs et qui tuent malheureusement des soldats israéliens dans le nord de Gaza. Donc on est dans une accélération. Par toutes les milices pro-iraniennes en Syrie, en Irak, en Cisjordanie, Judée, Samarie, il y a une recrudescence. Et pour Israël, c'est pareil. Il faut qu'il profite de ce créneau pour affaiblir encore davantage, si possible, le Hezbollah et le Hamas. Donc, et ses milices. Donc, oui, on est dans une ère de préparation. Vous savez, c'est très classique vers les fins de guerre quand on commence à entrevoir des cessez-le-feu. Chacun prend des positions les plus avancées possibles géographiquement et des rapports de force pour que la négociation soit la meilleure possible. Donc tout ça est, hélas, classique et c'est souvent dans les périodes qui précèdent les fins de combat qu'on a les combats les plus meurtriers.
Alors, vous énumérez un certain nombre de conditions, Daniel. Comment se présentent actuellement ces négociations?
Alors, il faut donner le contexte de ce que seront les négociations de 2025 autour de trois notions. La première, c'est Trump. Trump, c'est un homme qui est décisionnaire, c'est un homme qui ne se laisse pas conseiller, et donc il est le partenaire idéal pour des Poutines, des Xi Jinping, des Kim, etc., et des Ayatollahs, parce que eux non plus ne semblent ne rendre compte à personne. Donc on est avec des vrais négociateurs face à face. Et on sait que Trump aime négocier. On va le voir à l'œuvre. On l'avait vu à l'œuvre. On sait qu'il décide vite et même quelquefois trop vite. Et donc face à ces brutes, parce que nous sommes dans un monde de brutes, bon, on a une brute qui va essayer de trouver des transactions, hein, puisque c'est ce qu'il aime, la transaction, le deal, comme on dit en anglais. Et je crois que Poutine, Xi Jinping et les autres, ils sont prêts. Le deuxième contexte, c'est la politique extérieure américaine depuis une vingtaine d'années, enfin surtout initiée par Obama, qui est de beaucoup moins intervenir à l'étranger. de se concentrer à nouveau sur l'Amérique, ce qu'on appelle l'isolationnisme, bon, tout à fait relatif. Et donc Trump s'inscrit parfaitement dans les pas de cet isolationnisme qui a été inauguré par Obama. Et l'autre trait, c'est évidemment la méfiance des Américains vers tout ce qui est multilatéral, parce que c'est utilisé par les ennemis de l'Amérique pour profiter de l'Amérique. Donc il est partisan de la relation bilatérale, la vieille bonne diplomatie transactionnelle, one by one. Est-ce que c'est un recul? Ça, c'est une autre discussion qu'on aura peut-être ensemble. Et je rappelle que le droit international, on a vu la CPI faire des siennes cette fois-ci sur Netanyahou, et on a vu la révolte que ça a entraîné. On voit bien que le droit international est instrumentalisé par les ennemis de l'Occident contre l'Occident. Et donc la question, c'est la remise en cause de cet état de droit qui, abstraitement, devrait être un bien, et qui est devenu, en fait, qui se retourne contre l'Occident. Donc voilà. Et puis leur dernier point, on est dans un monde qui n'est plus celui des dernières 80 années. Ça, 2008 a marqué une césure. On est dans un monde qui s'est fracturé, et qui est dominé par cette confrontation États-Unis-Chine qui est derrière tout ça. Et donc où on pouvait penser que cette confrontation resterait commerciale, financière, technologique, voire civilisationnelle, hein. On est dans une peut-être guerre de civilisation, et on voit quand même que si c'est Chine et États-Unis, l'idée des guerres est réfutée par les deux parties, hein. Xi et Biden se sont vus trois fois, et à trois fois ils se sont dit on va pas se faire la guerre. Et donc malheureusement pour les deux, la guerre a surgi et en Europe et au Moyen-Orient, et je crois que les deux n'en ont pas envie. Donc il y a aussi ce contexte où je pense que les deux grandes puissances veulent arriver à des cessez-le-feu.
Justement, vous parlez de ce contexte mondial, quelle va être sa répercussion sur la situation au Moyen-Orient?
Écoutez, d'abord, il faut négocier et il faut sortir. Alors, au fond, la négociation, elle ne peut être que globale, hein. Très clairement, la négociation, c'est les États-Unis avec l'Iran. C'est ça le cœur des négociations. Mais évidemment, il y aura d'autres négociations à l'intérieur des négociations. La première, c'est une négociation à l'intérieur du camp occidental, essentiellement entre les États-Unis et Israël, qui ne voient pas la paix avec l'Iran de la même façon. On l'avait vu en 2015 et on le reverra certainement en 2025, 10 ans après. Du côté iranien, l'Iran a besoin du soutien, notamment de la Chine. Et donc il y aura aussi une négociation intérieure. Donc on va vers cette négociation globale, États-Unis-Iran, comme en 2015, mais qui associera probablement d'autres puissances. Ce ne sera pas une négociation bilatérale. On verra plusieurs pays, y compris, je pense, la Chine et la Russie, et j'espère l'Europe, faire partie de cette grande négociation de 2025.
On le sait, ces négociations sont complexes, elles prennent du temps. Y a-t-il des vrais obstacles?
Alors, les obstacles, je crois, j'en vois deux, et ça tourne autour de la relation entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Peut-être vous surprendre, hein, mais un traité de cessation des combats, ou un traité de paix même avec l'Iran, suppose que derrière il y a des garanties américaines pour que l'Iran ne dévie pas. On sait que l'Iran n'est pas quelqu'un qui respecte, pas un pays qui respecte les contrats avec l'Occident. Il est de bon ton de mentir aux Occidentaux. Donc il faut des garanties, et des garanties, il faut que les Américains les donnent aussi bien à Israël qu'aux Arabes. Et quand on connaît la politique américaine, avec la politique, par exemple, de Trump vis-à-vis de l'OTAN, qui est une zone de garantie américaine, est-ce que les Américains seront prêts à donner les garanties suffisantes à Israël et à Arabie Saoudite pour avoir un vrai traité de paix? Ça, c'est le premier obstacle. Et le deuxième obstacle, qu'on voit bien, l'Arabie Saoudite n'ayant qu'une crédibilité très très basse vis-à-vis des engagements américains, est tentée de jouer d'autres cartes. Et on l'a vu récemment, au 11 novembre, les Arabes se réunir, les musulmans absolument se réunir autour de l'idée qu'il faut se parler, y compris avec l'Iran. Donc une sorte d'alternative pour l'Arabie Saoudite. Si les Américains ne gèrent pas la paix, nous, il faut qu'on trouve des alternatives d'apaisement vis-à-vis de l'Iran. Et donc tout ça laisse augurer une année 2025 très compliquée sur le plan diplomatique.
Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka et à vous entendre, je pense que nous aurons de la matière pour nos prochaines conversations, à commencer par lundi prochain. Merci.
Et comment? À la semaine prochaine.